actualité. Bonjour, soyez les bienvenus à l'émission Les Paractualités. Hélène Denis avec vous en ce 8 mars 2018. Et en manchette aujourd'hui, le nombre d'étudiants souffrant de déficience bondit dans les établissements post-secondaires. Il n'y aurait pas deux, mais cinq types de diabète. Le 8 mars, c'est aussi la journée des supermamans. On parlera également des Paralympiques à Pyeongchang. Et en entrevue, je recevrai Dorothée de Colasson, chargée de projet pour Execo, et Fred Péloquin, artiste participant à l'exposition médiateur pour Execo, qui nous parle donc d'une exposition intitulée 2915 qui célèbre les 5 ans du programme Métissage urbain. Et c'est le vernissage aujourd'hui, 8 mars. Aussi, Jessica Cacciottore, conseillère en emploi programme, qui nous donnera des nouvelles du programme Le Pont de vie autonome Montréal. Nouvelle tirée du Devoir, Sandra Doyon avait des difficultés à lire et à se concentrer. Elle a manqué de temps pour réussir un examen de mathématiques, pas évident pour une étudiante à l'université. Le verdict d'une neuropsychologue est tombé récemment, trouble de déficit d'attention. Sandra Doyon n'est pas la seule dans sa situation. La vague des élèves ayant des difficultés d'apprentissage atteint les cégeps et les universités. Le nombre d'étudiants en situation de handicap, notamment à cause d'un déficit d'attention, a décuplé en enseignement supérieur depuis une douzaine d'années. Au niveau collégial, un étudiant sur 10 a besoin de services spéciaux et d'accommodement pour l'aider à réussir ses études. À l'université, cette proportion atteint 6,3% des étudiants dans les deux cas. C'est 10 fois plus qu'il y a une décennie. Le Québec a fait un choix de société, ouvrir la porte aux études supérieures à des élèves qui auraient autrefois été susceptibles d'abandonner en cours de route faute de soutien. Le gouvernement investit plus de 2 milliards de dollars par année pour accompagner les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage au primaire et au secondaire. À la fin du secondaire, près d'un élève sur 4, 23,3%, a un trouble d'apprentissage selon le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Une nouvelle tirée de Radio-Canada, il n'y aurait pas deux, mais cinq types de diabète. Notre compréhension du diabète serait complètement à revoir. Des chercheurs européens affirment qu'il n'existe pas moins de cinq types de diabète, une nouvelle classification qui mènera, selon eux, à des traitements mieux ciblés. Jusqu'à aujourd'hui, la médecine avait identifié deux types de cette maladie causée par l'incapacité de l'organisme à baisser le taux de glucose dans le sang, processus régulé par l'insuline. Diabète de type 1, il apparaît dès le jeune âge et est responsable d'environ 10 % des cas. Diabète de type 2, il est causé par des troubles du métabolisme du foie, des muscles et des tissus adipeux. Il est généralement associé aux mauvaises habitudes de vie. Or, des chercheurs suédois et finlandais décrivent dans leurs travaux une réalité beaucoup plus complexe. L'analyse en profondeur du sang de près de 15 000 diabétiques a permis, selon eux, de classer la maladie en 5 groupes distincts. Groupe 1, il correspond à peu près au diabète de type 1. Il apparaît dans la jeunesse et s'attaque aux cellules qui produisent de l'insuline. Groupe 2, l'origine semble être la même que pour le diabète du groupe 1, ce n'est toutefois pas le système immunitaire qui est en cause. 3, ces patients, généralement en surpoids, ont développé une résistance importante à l'insuline. Ils en produisent, mais leur corps ne répond plus. Groupe 4, ce diabète est observé chez des personnes obèses, mais dont le métabolisme est beaucoup plus proche de la normale. Et groupe 5, il apparaît chez des personnes d'âge moyen, plus vieilles que dans les autres groupes, et il a tendance à être moins grave. En 2008-2009, près de 2,4 millions de Canadiens vivaient avec le diabète de type 1 ou de type 2. « L'exposition 2915 célèbre les 5 ans du programme Métissage urbain mis sur pied par Execo et son inauguration a lieu aujourd'hui même, 8 mars, Journée internationale des femmes. J'en parle avec Dorothée de Colasson, chargée du projet pour Execo. Bonjour Dorothée.
Bonjour.
Je peux vous appeler par votre prénom?
Bien sûr.
Et au bout du fil, Fred Péloquin, artiste en tout genre, participant à l'exposition et médiateur pour Execo. Bonjour Fred.
Bonjour, ça va bien?
Oui, merci. Alors, merci d'être là. D'abord, Dorothée, je m'adresse à vous. Rappelez-nous ce qu'est le programme Métissage urbain.
Alors, Métissage urbain, c'est un programme de résidence artistique dans le cadre duquel on accueille des artistes qui ont des projets de co-création ou de création collaborative artistique qui souhaitent, par exemple, les mettre en œuvre avec la communauté ou avec des populations avec lesquelles ils ont moins l'habitude de travailler et qui ne savaient pas nécessairement qui savent pas nécessairement par quel bout s'y prendre. Donc, à Execo, en fait, on accueille ces artistes-là et on les accompagne dans le déploiement de leur résidence artistique. C'est des projets qui se passent souvent dans l'espace public, qui sont pluridisciplinaires et pour lesquels, en fait, on va utiliser le prétexte de la création pour amener des personnes qui ne se seraient pas nécessairement parlé ou rencontré à participer ensemble à un projet commun.
Et comment l'exposition 2915 célèbre le programme Métissage urbain?
Eh bien, 2915, c'est la première exposition collective du programme Métissage urbain. Ça fait 5 ans, on a entre 25 et 30 artistes maintenant qui ont participé à ce programme-là. Et on n'avait jamais eu l'occasion de faire une exposition rétrospective, en fait, de toutes ces œuvres-là. Et puis, ça tombe très bien que ce soit le 8 mars parce que, à part M. Péloquin, on a exclusivement des femmes qui exposent ce soir.
Alors, M. Péloquin, Fred, de votre prénom, est-ce que vous vous sentez un peu à part ou ça vous fait plaisir, un petit velours, de faire partie de cette exposition?
Wow, c'est très drôle. Je viens de prendre connaissance de cette information-là. mais ça ne m'étonne absolument pas de la part d'Execo parce que, wow, en somme, je pense que on travaille très souvent chez Execo avec des femmes exceptionnelles de qui viennent à peu près de partout. Donc, si je peux parler de mon projet deux minutes là-dessus, je veux dire, si c'était pas justement de la présence de Dorothée, de Nadia, de bénévoles vraiment cool, ce projet-là n'aurait jamais existé. Fait que je suis très honoré d'être le seul gars.
En espérant qu'il y en aura d'autres quand même. Et Fred, depuis combien de temps vous participez à ce programme?
Ben, j'ai eu la chance d'être dans la première année de Métissage urbain. Ben, je dis la première année parce que j'ai accompagné des artistes en tant que médiateur. Donc, même les premiers projets de Métissage urbain, j'étais sur le terrain avec ces gens-là. Donc, j'ai pu voir le projet se déployer au fil des années. Là, je suis très content de ça.
Oui, et quel type d'œuvre présentez-vous?
Le projet que je présente s'appelle... La toile s'appelle Oak Row. C'est dans la suite d'un projet qui s'appelle Les Voies du hasard. Mm-hmm. Et puis, la caractéristique de ça, c'est que c'est des petites autos téléguidées sur lesquelles j'ai fixé des crayons à l'aide de Velcro. Puis c'est les gens qui ont joué aux autos téléguidées dans la rue ou, par exemple, dans les près de l'itinéraire ou, bref, dans les centres.
Oui.
Et puis, c'est les gens qui ont fait plein de dessins avec les autos de manière abstraite. Et hasardeux, juste après ça, ça a pris le volet un peu d'un vox pop. On s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'on voit et tout. Et puis tout ça, surtout, était backé par, appuyé par un magnifique conte qui s'appelle Oak Row, qui est dans une édition de Terre de Trickster, un projet d'Execo aussi. Puis c'est dans le fond, c'est l'illustration d'un conte qui se déploie devant nous. Là. Donc, c'est une grande murale de 9 pieds par 8 pieds.
Oh.
Et puis, je ne saurais dire combien il y a de participants qui ont travaillé là-dessus, mais ça a
beaucoup.
Été un grand, grand moment.
À peu près 150.
Ah oui, l'exposition...
Merci, Dorothée.
L'exposition s'appelle 2915, pas pour rien.
Oui, en fait, 2915, c'est le nombre de personnes qui ont pris part au programme Métissage urbain. Donc, ça inclut les artistes et tous les co-créateurs, en fait, toutes les personnes qu'on a rencontrées dans ces résidences-là depuis 5 ans.
Et où se tient l'exposition?
L'exposition, ce sera aux ateliers Jean Briand, qui est situé rue Saint-Jacques, dans le sud-ouest.
Mm-hmm.
C'est une ancienne gare de triage, c'est un bâtiment patrimonial qui est magnifique.
Oh,
et l'exposition va durer 3 semaines.
Donc, l'inauguration a lieu aujourd'hui, le vernissage.
Oui.
Tout le monde est invité?
Oui, bien sûr.
Oui, est-ce que ça coûte quelque chose?
Non, c'est gratuit.
Est-ce qu'on va pouvoir se procurer des œuvres?
Non.
Non? Alors, on va en profiter.
Mais par contre, on va lancer des appels à projets pour des prochaines résidences artistiques.
Et est-ce que le lieu est accessible à tous? Parce que c'est bien important pour, entre autres, les auditeurs qui sont à l'écoute en ce
bien
moment.
Sûr. Alors, ça a été un petit défi pour nous au début parce que les ateliers Jean Briand, c'est une ancienne gare de triage. Donc, c'est un bâtiment patrimonial qui n'est pas nécessairement outillé pour.
Adapté, ouais.
Ceci dit, pour les personnes à mobilité réduite, on nous a dit que par l'arrière, c'était possible. Puis surtout, faites-nous bien confiance qu'à Execo, on a l'inclusivité vraiment qui nous tient à cœur et qu'on a une équipe de médiateurs qui seront là sur place et qui ont une surefficacité au niveau de la recherche de solutions créatives. Donc, on ne laissera personne à l'extérieur de l'exposition et on va faire en sorte que tout le monde soit bienvenu. Puis, on a mis en place aussi plein de petites choses, par exemple des espaces pour s'asseoir ou des sous-titrages sur les vidéos pour s'assurer qu'il y ait le minimum de freins.
Rappelez-nous en quelques mots, Dorothée, la mission, la vocation d'Execo.
Oui, alors Execo... En fait, on pourrait dire qu'Execo, c'est avant tout une posture éthique, c'est ce qui s'appelle la présomption d'égalité des intelligences et qui consiste à présumer que la personne en face de soi a le même potentiel que nous à créer ou à réfléchir. Et donc, Execo, ça se traduit par un organisme à but non lucratif qui a été créé en 2006 et qui vise à créer des espaces où chacun peut exprimer ce potentiel, peut faire entendre sa voix en tant que citoyen ou citoyenne, peut créer et puis peut faire des rencontres, partager du savoir, etc.
Alors, vous nous donnez vraiment envie d'assister à l'exposition, d'en savoir un peu plus sur ce projet-là. Est-ce qu'il va y avoir de la musique, Fred Péloquin? Parce que j'ai lu que vous avez déjà été accordéoniste pour Marco Cagliari, que vous êtes auteur-compositeur-interprète.
Aïe, 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 vous avez fait vos devoirs, hein?
j'ai une bonne équipe.
J'ai pas prévu faire de spectacle ce soir. Quoique, s'il y a un intérêt, si je vois que les gens m'appellent pour dire « amène ton accordéon », je l'amènerai peut-être.
Bien, apportez-le au cas où.
Ouais, mais a priori, j'ai plus envie de partager autour de l'expérience magnifique qui a été Métissage urbain pour moi.
Peut-être que ce sera une autre occasion. Vous allez avoir une autre occasion parce que l'exposition a lieu quand même pendant 3 semaines.
Oui, elle a lieu pendant 3 semaines. Et puis, je voulais juste rappeler qu'on aura plusieurs temps forts. Demain, on aura la projection du film Nuit qui a été réalisé notamment avec les participants de l'itinéraire et de l'accueil Bono. Et puis, on va aussi avoir des visites exploratoires tout au long des 3 semaines. Donc, les informations sont consultables sur notre site et nos réseaux sociaux avec des médiateurs qui pourront amener justement certains angles de réflexion autour des œuvres et des processus créatifs avec différents groupes. Mais ça va être ouvert au grand public et toujours gratuit, bien sûr.
Bien, merci beaucoup, Dorothée de Colasson et Fred Péloquin. On ira faire un tour pour découvrir ce programme Métissage urbain, cette exposition qui est intitulée 2915. Merci, Fred.
Merci, bienvenue à tous.
Bon vernissage et puis merci Dorothée.
Merci à vous.
Bloc régional, le 8 mars, c'est aussi la journée des supermamans. La Journée internationale des femmes fait souvent ressortir les personnes qui ont réussi en affaires et qui occupent des métiers non traditionnels qui sont impliqués en politique, mais on oublie les mères, lesquelles chaque jour font parfois preuve de courage et toujours de dévouement. On peut certainement les appeler les supermamans. Dans Soulanges, on retrouve 5 mères dont les enfants sont lourdement handicapés. Toutes ont dû abandonner leur travail pour s'occuper de leurs enfants à temps plein. Ces maladies dont sont atteints les enfants sont rares, très rares, et souvent difficiles, sinon impossibles à répertorier. D'où la difficulté d'obtenir un soutien financier du gouvernement, du moins au début, parce que ces mères se sont regroupées et ont fondé un mouvement nommé « Parents jusqu'au bout ». Après plusieurs représentations publiques et politiques, elles ont réussi à obtenir une aide financière substantielle s'approchant de celle que reçoivent les familles d'accueil, soit 950 $ par mois. Les mères éprouvent généralement toutes les mêmes difficultés. Aucun de ces enfants n'est autonome. Ils doivent tous utiliser un fauteuil roulant. « Ce sont des amours, nous les adorons », de dire Marilène Picard, maman de Dylan, 6 ans. Mais en même temps, c'est super demandant. Nous vivons de très, très grands stress. Les défis sont difficiles à relever. Ils ne font pas leur nuit et parfois c'est terrible. Ce sont des perpétuels nouveau-nés. Certains, comme les deux garçons d'Anne Gagnon, sont à l'école et cela lui donne un répit durant quelques heures. On joint maintenant Jessica Cacciatore, conseillère en emploi. Bonjour, Madame Cacciatore. Est-ce que je prononce bien votre nom de famille?
Oui, c'est bien ça. Comme...
Bon, tant mieux.
Jessica Cacciatore.
D'accord. Alors, Madame Cacciatore, vous nous donnez des nouvelles du programme Le Pont de Vie Autonome Montréal. D'abord, qu'est-ce que l'organisme de Vie Autonome Montréal?
En fait, Vie Autonome Montréal, c'est un organisme communautaire sans but lucratif, géré par et pour des individus francophones et anglophones vivant une situation de handicap sur l'île de Montréal et ses environs.
Et il y a aussi le pendant anglais qui existe, hein, sous le mot, l'expression « independent living ».
Oui, en fait, on porte les deux noms, « Vie autonome Montréal » ou « Independent Living Montreal ».
D'accord. Et parlez-nous maintenant du programme Le Pont, P-O-N-T.
Oui, en fait, Le Pont, c'est un programme de pré-employabilité qui offre une diversité de services bilingues aux adultes de 18 ans et plus qui sont éloignés du marché du travail depuis au moins 3 ans ou bien qui n'ont pas d'expérience concrète liée au domaine d'études au Québec. Par exemple, on peut aider un étudiant en recherche de stage ou d'emploi d'été, offrir des opportunités de bénévolat à un membre voulant parfaire ses compétences ou revenir progressivement là, sur le marché du travail, mm-hmm. ou aider, par exemple, un nouvel arrivant au Québec à trouver de l'emploi.
Est-ce qu'il y a des limites d'âge? Vous desservez une clientèle âgée de
c'est 18 ans et plus, mais il n'y a pas de limite d'âge.
Non, d'accord. Qu'est-ce qui vous démarque des autres services spécialisés de la main-d'œuvre?
En fait, premièrement, on n'est pas assujetti aux normes d'Emploi Québec. Donc, on essaye le plus possible de travailler en complémentarité avec les services spécialisés de main-d'œuvre. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de limite comme on n'est pas limité à offrir des services à une seule clientèle ayant un diagnostic précis. D'ailleurs, si une personne déclare par elle-même avoir une limitation ou un trouble visible ou invisible qui rend ses démarches en emploi plus difficiles, on l'accueille les bras ouverts, que ce soit avec ou sans diagnostic officiel.
D'accord. Vous avez aussi des ateliers webinaires?
Oui, en fait, c'est tout nouveau. On offre des ateliers webinaires et aussi on offre du counseling individuel par vidéoconférence pour les gens que leur santé peut être
plus précaire,
plus difficile de se déplacer ou compte tenu de la distance, comme on dessert toute l'île de Montréal et ses environs. Des fois, pour certaines personnes, c'est plus pratique de faire des entrevues de la maison.
Et oui, et puis il y a aussi Opter pour le talent. C'est une plateforme web. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, en fait, c'est la CBDC Restigouche qui a créé cette plateforme-là. Et puis, Vie Autonome Montréal est mandatée pour représenter un peu l'outil dans les environs ici. Et c'est une plateforme faite pour les employeurs qui voudraient devenir plus inclusifs en emploi. Et donc, il y a beaucoup d'outils web pour les aider sur différents sujets, du début de l'embauche jusqu'à l'intégration d'une personne en situation de handicap.
D'accord.
Oui.
Et Mme Cacciatore, comment on peut vous joindre?
En fait, c'est tout simple. C'est tout simplement de nous appeler dans 514-288-1177 ou de m'écrire un courriel à lepont, à commercial, va-m.
Et vous avez un beau site Internet aussi, www.va-m.org. Vous êtes situé où?
On est à Côte-Saint-Luc, au 5555 Avenue Westminster.
Alors, un grand merci de nous avoir donné plus de détails sur ce programme de pré-employabilité. C'est pas un mot facile à dire. Vous l'avez dit mieux que moi tantôt. Alors, ce programme s'appelle Le Pont. Et,
The Bridge,
en anglais, oui. Et c'est à Vie Autonome Montréal, un pont peut-être plus solide que certains autres qu'on connaît, mais je ne m'embarquerai pas là-dedans. Merci beaucoup.
Parfait, bonjour, merci beaucoup.
Brian McKeever, un gagnant de 10 médailles d'or, sera le porte-drapeau du Canada lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Pyeongchang vendredi. Le fondeur de 38 ans, handicapé par des problèmes de la vue, monopolise la plus haute marche du podium depuis plus de 10 ans, n'ayant pas subi la défaite en compétition paralympique depuis 2006. McKeever, qui mènera une délégation de 55 athlètes et guides à l'intérieur du stade de Pyeongchang, s'est dit honoré et emballé par cette distinction qui arrive à point, a-t-il ajouté, puisqu'elle survient à la fin de sa carrière. McKeever était destiné à éditer une page d'histoire à Vancouver en 2010, alors qu'il aurait pu devenir le premier athlète de l'histoire à participer aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques la même année. Toutefois, les entraîneurs de l'équipe olympique de ski de fond du Canada ont choisi 4 autres athlètes en vue de l'épreuve de 50 km et pas McKeever. Il est néanmoins devenu le premier Canadien à être nommé au sein des équipes olympiques et paralympiques lors de la même année. Et quelques semaines après les Jeux olympiques de Vancouver, il a fait fi de la déception qui pouvait l'habiter, en amassant 3 médailles d'or au volet paralympique. Alors que 600 000 personnes pourraient être concernées en France par l'autisme, des recommandations très attendues sur l'accompagnement des adultes autistes sont publiées lundi par la Haute Autorité de santé. Ces nombreuses recommandations sont destinées à améliorer la qualité des interventions des travailleurs sociaux, psychologues et autres professionnels de santé, une nouvelle publiée dans le point.fr, en écho à ce que la Haute Autorité de santé conseille pour les enfants depuis plusieurs années. Le rapport désigne les approches comportementales neurodéveloppementales ou neurocognitives comme indispensables dans l'accompagnement de l'adulte autiste. Les interventions doivent être personnalisées en fonction de son profil et de ses choix. L'idée est de permettre aux adultes avec troubles du spectre de l'autisme de mener une vie la plus autonome et indépendante possible. Le chiffre de 600 000 adultes autistes est parfois avancé pour estimer la prévalence en France. Bien qu'aucune donnée épidémiologique n'existe à ce jour, soulignent les deux organismes. Plusieurs rapports, dont un récent de la Cour des comptes, ont souligné les lacunes dans la prise en charge des adultes autistes et le gouvernement doit annoncer mi-mars un quatrième plan autisme. L'Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au poste secondaire, ACEPS, vous invite à participer au lancement de Montréal sans obstacle demain, vendredi 9 mars, de 17h à 19h30, à l'Université Concordia. Qu'est-ce que Montréal sans obstacle? Montréal sans obstacle est une initiative axée sur la communauté qui vise à rendre la ville de Montréal plus inclusive et accessible pour les personnes qui vivent avec un handicap physique. Le tout se déroulera du 9 mars au 9 juin 2018. Nous vous invitons à participer à une série de 12 événements, incluant des échanges de connaissances portant sur les défis de l'accessibilité et de l'inclusion, des activités d'équipe multidisciplinaire, des ateliers de recherche, design, prototypage, ainsi qu'un vernissage festif pour célébrer l'évolution de vos projets et explorer les pistes de pérennité des solutions. Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer avec le Bureau de l'engagement communautaire de l'Université Concordia. Et un nouveau site d'inscription à la liste de demandeurs pour les logements adaptés de la Fondation des aveugles du Québec est heureuse d'annoncer le lancement d'un site accessible qui permettra aux demandeurs de logements adaptés avec un handicap visuel de s'inscrire en ligne ou au moyen de leur appareil mobile. Nous vous invitons, les personnes intéressées, à vous inscrire dès maintenant à l'adresse suivante www.habitationfaq.org. Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Merci à mes invités Dorothée de Colasson et Fred Péloquin, ainsi que Jessica Cacciatore. Et un grand merci à mon équipe, Mathieu Tessier, à la mise en onde, et Anne-Laure Janson à la recherche. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une belle fin de semaine. On est déjà jeudi. Et oui, puis je vous retrouve lundi à une autre édition des Par Actualité. Bonne Journée internationale des femmes.